France Culture. Science Chrono, Antoine Beauchamp.
Les grandes épidémies sont des laboratoires pour les sciences du vivant et les sciences humaines et sociales. Parmi ces grandes épidémies, celles de choléra qui frappèrent l'Europe au XIXe siècle sont emblématiques des errements et des progrès des sciences expérimentales et des sciences médicales, mais aussi de l'évolution en matière de politique de santé publique et d'hygiène. Science Chrono slalom aujourd'hui entre miasmes, germes et contagions, à la poursuite d'une maladie qui mit au défi toutes les sciences. Bonjour Anne Rasmussen.
Bonjour.
Vous êtes directrice d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, le HESS, et vous êtes co-autrice du livre « Face aux épidémies de la peste noire à nos jours », coédité par les éditions Michel Lafon et les Archives nationales. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui pour nous raconter l'histoire de ces épidémies de choléra au XIXe siècle, et notamment celle de 1832 qui frappera tout particulièrement la France et l'Europe occidentale. Merci d'être là aussi pour nous expliquer l'importance qu'ont eu ces épidémies dans l'histoire de la médecine et dans l'histoire de la santé publique. Avant que nous discutions de tout cela, je vous annonce le sujet de la deuxième partie de l'émission. Tout à l'heure, dans l'entretien archéologique, nous reviendrons sur la découverte exceptionnelle sur l'île de Ré de sépultures carolingiennes, présentant des ossements humains accompagnés d'objets, une chose rarissime pour cette époque. Et cerise sur le gâteau, ces éléments matériels nous renvoient à la culture matérielle des peuples nordiques. Alors on verra tout à l'heure comment on peut essayer d'interpréter ça. Mais tout de suite, on en revient à l'histoire des sciences et parlons d'histoire des sciences et d'histoire des épidémies, notamment des épidémies de choléra qui ont frappé le monde au XIXe siècle. Anne Rasmussen, si on commence par une description relativement simple de cette maladie, comment on peut la décrire et on va ensuite tracer son itinéraire.
Alors, pour décrire le choléra, je commencerai peut-être par dire que c'est une maladie nouvelle au XIXe siècle. En tout cas, pour ceux qui en font l'expérience au début du XIXe siècle, c'est un coup de tonnerre. Hein. C'est le retour des grandes épidémies. En tout cas, je parle là d'un point de vue européen en particulier, voire français. Donc, c'est une maladie qui frappe, qui vient de loin et dont la particularité, la nouveauté, c'est qu'elle sort au début du XIXe siècle de son bassin du Gange, donc de sa niche écologique dans laquelle elle était confinée depuis fort longtemps, puisque c'est une maladie qu'on connaît depuis l'Antiquité, mais qui soudain devient épidémique, voire pandémique, c'est-à-dire qui gagne le monde entier au cours du XIXe siècle.
Vous l'évoquez, donc cette maladie était très circonscrite géographiquement jusqu'au XIXe siècle. Vous dites, voilà, finalement c'était un peu la peste de l'Inde, ou d'une certaine façon l'Europe a connu de grandes épidémies, la peste, la grande peste, le typhus, la variole. Alors pourquoi le choléra peut, d'une certaine façon, si on se place déjà d'un point de vue historique, historiographique, pourquoi le choléra est une maladie du XIXe siècle?
Alors là, vous soulevez une énigme de l'épidémiologie. C'est pourquoi une épidémie se déclenche, quelle en est la cause, quelles en sont les origines. C'est toujours une question disputée qui l'est encore. Pourquoi elle sort à un moment donné précisément de son bassin écologique? Alors, sans doute le 19e siècle a fourni des conditions favorable à l'expansion de grandes épidémies. Ça n'est pas la seule, on connaît aussi la fièvre jaune. Le choléra a sans doute eu un aspect plus universel que la fièvre jaune dans son expansion mondiale tout au long du XIXe siècle. Donc ces conditions favorables sont le développement, les épidémies, et en particulier celle-là, des maladies infectieuses, elles se déplacent au gré des déplacements humains.
Des échanges,
donc des groupes humains, de leur densité, de la distance qu'ils parcourent, du rythme de leur déplacement. Et donc, le 19e siècle, c'est la révolution des transports avec leur industrialisation, sont les chemins de fer, c'est le bateau à vapeur qui va donc allonger les distances, mais aussi accélérer considérablement les déplacements. Et puis, c'est aussi peut-être l'expansion coloniale. Oui. Et du fait, par exemple, pourquoi l'Inde? Eh bien, sans doute aussi sans doute pas seulement, mais aussi parce que colonisation britannique et parce que des échanges multipliés, militaires, mais aussi commerciaux, des routes qui se mettent en place et finalement qui augmentent véritablement tout l'ensemble de ces flux entre continents.
Comment comprend-on au moment du 19e siècle, donc les contemporains du 19e siècle, comment ils comprennent cette propagation-là? Comment ils la suivent? Est-ce qu'ils arrivent finalement à la suivre de façon déjà assez fine?
Alors, c'est un sujet d'étude et c'est aussi ce qui caractérise sans doute le 19e siècle par rapport à celui des grandes épidémies du passé. C'est la mobilisation de savoirs, de disciplines qui vont être mises au service de la connaissance du fonctionnement, de l'étiologie, comment dire, médecine, pour les causes des épidémies. En particulier, on va développer des statistiques, on va développer aussi un outil très utile dès le début, notamment pour la fièvre jaune, mais dès le début du siècle, c'est la cartographie. Et donc, on voit les itinéraires, les trajectoires de ces épidémies, donc au gré des déplacements et de ces représentations cartographiques qui rendent compte aussi. En voyant les tracés, on comprend aussi une forme d'expansion des pathogènes.
Ça suit aussi finalement, ces itinéraires suivent les grandes routes commerciales, qu'elles soient maritimes ou terrestres. Si on doit faire justement cet itinéraire peut-être de la deuxième grande pandémie de choléra qui va nous occuper particulièrement aujourd'hui, elle commence où, elle passe par où et comment les Français, qu'ils soient politiques ou scientifiques, voient-ils arriver cette épidémie de choléra?
Alors oui, donc je complète juste route commerciale, bien sûr. Sans doute d'abord route commerciale, mais aussi route militaire. Hein. Les troupes ont toujours été des grands réservoirs d'épidémies. Et puis aussi les pèlerinages. On sait qu'au 19e siècle, ça va être un enjeu très crucial de la lutte contre les épidémies, notamment entre l'Europe et le reste du monde et le bassin méditerranéen. On se focalise notamment sur le pèlerinage à la Mecque, qui est considéré comme un hotspot, on dirait aujourd'hui, de ces épidémies. Alors pour revenir à la deuxième, qui commence à la fin des années 20, 1827, et qui sort en fait vraiment là, son point de départ, c'est l'Inde, c'est le golfe du Bengale, et puis elle se dirige vers la mer Caspienne, vers l'Est européen, la Pologne, et elle se répand alors justement dans le bassin méditerranéen, la Mecque, vers l'Égypte, l'Europe, et puis elle gagne même les Amériques, l'Amérique du Nord, l'Amérique centrale. Donc c'est la première à avoir ce profil pandémique que n'avait pas encore la toute première, qui est de quelques années auparavant, qui restait encore un peu plus circonscrite.
Qu'est-ce qu'on comprend de la maladie en elle-même et de la façon dont elle passe d'un humain à un autre? Quelles sont finalement les grandes théories en présence pour expliquer sa viralité?
Alors ça, c'est un sujet qui va animer des controverses, on peut dire, tout au long du siècle, quasiment, mais en particulier pour cette deuxième pandémie, et qui va se résumer sous une vision en binaire, peut-être un peu excessivement schématique, mais entre les théories de la contagion et les théories de l'infection. Donc maladie contagieuse ou maladie infectieuse. Alors maladie contagieuse, c'est facile à comprendre, c'est la transmission interhumaine, c'est la maladie qui se transmet par contact direct entre humains, ou bien contact indirect par les marchandises, les vêtements, comme on le croyait au moment de la grande peste, d'éléments contaminants. Dans le foyer d'infection, là, on est dans une vision qui n'est pas dans les chaînes de transmission, mais qui est dans la localisation située, et on impute la maladie au miasme. Donc ça, c'est l'élément explicatif dominant.
Vieille idée dans l'histoire de la
vieille
santé.
Vieille idée très durable, qui va durer jusqu'à la théorie des germes du dernier tiers du 19e siècle. Les miasmes, ce sont des éléments de décomposition organique, végétale, animale, qui créent des processus chimiques de putréfaction dont on imagine qu'ils se répandent dans l'air et qu'ils sont les éléments véritablement de contamination. Ce qui est important dans l'infection, c'est que c'est un foyer, c'est vraiment la localisation. Et par conséquent, de ce système interprétatif entre contagion ou bien infection, il découle des hypothèses scientifiques et aussi des moyens de lutte qui sont tout à fait différenciés.
Alors on parle de moyens de lutte. Pour nous, la prévention en termes d'hygiène, de santé publique est aujourd'hui quelque chose d'assez classique, d'assez commun. À l'époque, ça faisait pas du tout partie du dogme, d'une certaine façon. L'antisepsie, par exemple, c'est bien plus tardif. C'est 1847, alors bien plus tardif. Ça reste quand même une avancée du 19e siècle, mais ça ne concerne pas cette deuxième épidémie de choléra. S'il n'y a pas de prévention, il y a quand même une grande surveillance de la part des autorités publiques. Et en préparant cette émission, j'ai trouvé ça amusant. Enfin, je ne sais pas s'il faut s'en amuser, mais le fait qu'on envoyait d'une certaine façon comme des émissaires sur le front de la maladie pour la voir arriver. Et pour, déjà rendre compte de son avancée, de son évolution et de ses effets. Comment on peut décrire ces ambassades, d'une certaine façon, de la maladie qui allaient rendre compte pied à pied de l'évolution de cette maladie?
Oui, ça c'est vraiment la traduction de la constitution de savoir, hein, de savoir qu'on appellera épidémiologique, mais de savoir médicaux. Donc on envoie, donc là on a des institutions sanitaires, le Conseil supérieur de santé par exemple en France, et puis l'Académie de médecine hein, qui est renaît en 1820, qui vont envoyer en effet des observateurs, des émissaires. Ils sont parfois aussi appelés par les pays étrangers comme des experts. Pour établir donc la compréhension des épidémies. Et ces émissaires qui vont, alors par exemple en France, ce sont Moreau de Jonnès qui a aussi établi des cartes itinéraires du choléra, ou Brière de Boismont qui lui est un tenant de l'infection, donc qui va montrer par ses observations que sa théorie de la maladie infectieuse est pertinente. Et donc ils vont en effet en émissaire parce que une pandémie, ça se déroule dans le temps. Oui. C'est-à-dire qu'elle commence dans elle commence dans les années 20. Elle est en 1828 en Russie et elle met quand même quasiment 3 ans pour arriver en Grande-Bretagne et puis en France au printemps 1832.
C'est là, si on fait un tout petit détour par le Covid, par exemple, qu'on se rend compte que voilà, l'accélération des moyens d'échange fait que ça arrive tout d'un coup beaucoup plus vite quand on prend l'avion et pas quand on prend le train, comme à l'époque. Ça, c'était un petit aparté, mais ce qui est intéressant aussi avec ces épidémies, c'est que ça nous renvoie forcément à celles dont on sort et à celles qu'on a traversées. On parlait de ces émissaires-là et du fait que cette maladie, finalement, restait lointaine et progressait relativement lentement. Il y a une dimension aussi, Anne Rasmussen, qui est intéressante, c'est qu'à l'époque, en France, on se dit, le choléra est une maladie de peuple barbare. Rassurez-vous, ça nous arrivera pas.
Oui, tout à fait. On la voit arriver, en effet. Enfin, alors là, quand on dit « on », c'est oui, plutôt des élites, ce sont des savants. Mais par ailleurs, il y a un acteur important de cette histoire, c'est la presse. Mmh. On est dans une époque où la presse est très développée. Enfin, c'est pas encore la presse totalement à un sou de la fin du siècle, mais néanmoins, on est dans un régime libéral, hein, en France, sous la monarchie de Juillet, de la presse. Donc, les informations circulent et on a des informations. Le public est informé de l'épidémie au loin. Ouais. Et le lointain, c'est en général, c'est toujours l'Orient. C'est la partie orientale de l'Europe, du monde. Ce qui est mauvais et ce qui est épidémique vient toujours et suspecté de venir de là. Et effectivement, c'est assimilé à des pays barbares, mmh, des pays dont la pauvreté, l'ignorance, l'inculture, l'obscurantisme favorise finalement le développement d'épidémies dont on pense volontiers jusqu'au début de l'année 1832 qu'elle épargnera l'Europe et qu'elle épargnera la France, pays des Lumières, pays qui n'a pas connu en fait de grandes épidémies depuis la peste de 1720, qui a été le dernier grand événement meurtrier. Donc on croit à un progrès des connaissances, progrès économique, progrès social, progrès moral aussi, qui forgera finalement une carapace qui permet de cantonner les épidémies à un état hygiénique déficient, à la pauvreté, aux conditions misérables, etc.
Bon bah c'est raté puisqu'en 1832 le choléra arrive quand même en France. Vous évoquiez de façon très intéressante cette dernière épidémie de peste en 1720. En 1720 à Marseille par exemple, on avait mis les pestiférés en quarantaine. Alors quelles sont, quand le choléra arrive en France, les premières mesures prises par les autorités pour essayer de cantonner cette épidémie-là et d'en limiter les effets?
Oui, alors la quarantaine et les cordons sanitaires, donc la quarantaine et les dispositifs qui l'accompagnent, c'est-à-dire les lazarets qui donc sont des lieux de rétention des voyageurs. Alors ça, c'est vraiment un nœud très important des débats et un enjeu des politiques publiques, parce que c'est l'outil traditionnel de la lutte contre l'épidémie, effectivement, depuis la peste, depuis la peste noire, le Moyen-Âge, c'est-à-dire qu'on confine, on met des barrières à l'entrée des territoires, et en particulier des territoires nationaux ou des territoires régionaux à l'intérieur même du royaume, par exemple, comme c'était le cas pour la peste en 1720. Alors, le problème, c'est que les quarantaines, d'une part, elles sont extrêmement discutées, elles apparaissent comme tout à fait archaïques au 19e siècle, elles sont coercitives et elles apportent avec elles le malheur, c'est-à-dire que elles apportent surtout la rupture des échanges, donc du commerce, donc des approvisionnements. On les accuse d'être la cause d'affamer finalement le peuple, de la sous-alimentation, parce qu'il n'y a plus de marché, il y a plus de... Et puis, elles sont coercitives, elles restreignent les libertés. Et on les accuse d'être inefficaces, parce que quand on fait des quarantaines, on rassemble des gens, des populations, qui deviennent en fait elles-mêmes des foyers de contagion. Alors, en revanche, ceux qui pensent que la contagion est l'élément explicatif de la propagation du choléra continuent à penser que les quarantaines et surtout les cordons sanitaires, ce sont des cordons militaires. On met des militaires en armes qui empêchent toutes les circulations et qui peuvent tirer sur les contrevenants. Mais ce système qui s'était avéré d'une certaine efficacité pour la peste et notamment pour les quarantaines maritimes, pour des maladies qui viennent de la mer et de l'Orient et de la Méditerranée, se révèle beaucoup moins convaincant pour les frontières terrestres. Ne serait-ce que parce que des cordons sanitaires, il faut des milliers et des milliers de soldats pour les assurer. Et par ailleurs, donc, elles sont réputées fauteuses de misère et donc elles sont véritablement en cause elles sont la cible de la critique.
Alors ces mesures, elles n'empêchent pas le choléra d'entrer et de circuler en France, et ça conduit à des troubles importants. Alors vous le savez, Anne Rasmussen, on a l'habitude de proposer une archive de chaque semaine dans Science Chrono, on y vient. À Paris, donc, il y a un journal qui s'appelle la Gazette des Tribunaux, mais c'est pas le seul journal à en parler. Mais ce journal, la Gazette des Tribunaux, a suivi jour après jour l'épidémie. Alors non seulement en donnant quotidiennement un décompte des morts dues au choléra, mais aussi en faisant la chronique des événements, parfois violents, qui étaient liés à cette épidémie. Je vous propose d'écouter un extrait d'un article paru dans cette gazette en date du lundi 2 et mardi 3 avril 1832, une semaine tout juste après les premiers morts dus au choléra dans la capitale. Le journaliste parle dans ce numéro des émeutes provoquées par les chiffonniers à Paris et il donne son avis sur les mesures à prendre.
Ces troubles sont graves. Il importe qu'ils soient promptement réprimés. C'est assez du fléau qui vient de nous envahir et il est urgent que l'inquiétude publique ne soit pas augmentée encore par des troubles intérieurs. L'autorité a besoin de calme et de repos pour prendre les mesures qu'exigent l'invasion du choléra. Serait-il donc des hommes capables de spéculer sur un tel fléau? Ils seraient bien coupables et ne mériteraient aucune pitié. C'est avec un sentiment bien pénible que nous avons entendu les bruits qui circulaient dans les groupes. « Il n'y a pas de choléra, disait-on, c'est une invention de la police. Il y a trop de pauvres et on aime mieux nous empoisonner que de nous nourrir. » De pareils propos circulaient aussi à Moscou, à Saint-Pétersbourg, lorsque le fléau ravageait ces contrées. Les peuplades grossières du Nord, malgré leurs stupides préjugés, ont cru à peine pendant un jour à de si absurdes insinuations. Le peuple le plus éclairé de l'univers y croira-t-il davantage? Et se montrera-t-il le plus arriéré et le plus barbare? On se souvient que la populace de Moscou, égarée par un esprit de vertige ou des excitations déplorables, ayant voulu s'opposer aux mesures de l'autorité et ayant forcé les hôpitaux pour en enlever les colériques qu'ils supposaient sacrifiés,
plus de 700 malades moururent immédiatement au milieu de cet affreux tumulte, entre les mains de leur prétendu libérateur. On sait aussi que les ravages du choléra ont été partout d'autant plus désastreux qu'on a plus résisté aux soins réglementaires prescrits par les autorités. Ainsi, dans la monarchie autrichienne, le fléau a emporté plus de 400 000 victimes par suite de l'insouciance des populations, de leurs défauts de précaution et des violences tentées en divers lieux pour neutraliser les efforts de l'art et les intentions sages et éclairées de l'administration. Que tout cela nous serve d'exemple et qu'on ne donne pas encore à nos voisins d'outre-mer l'avantage de se montrer supérieur à nous par la résignation et l'intelligence des devoirs du citoyen au milieu des crises où les nations civilisées sembleraient devoir, au contraire, lutter de grandeur, de courage et de fermeté. Voilà, Anne Rasmussen, un extrait de la Gazette des Tribunaux. Il y a beaucoup d'éléments, finalement, dans ce texte qui nous font... qui nous emmène finalement du côté de la géopolitique, de la sociologie, même de la santé publique. Alors, quels éléments vous retenez-vous de cet extrait-là ?
Oui, c'est un texte fort intéressant. Je dirais d'abord que ça met en valeur un point que nous avons connu lors de l'épidémie de Covid, et je pense qu'il est propre à chaque individu, c'est que toute épidémie est un facteur de désorganisation sociale. Hein. L'historien de la médecine Mirko Grémek disait que c'était une mise à nu des structures de la société. Et par structure, il faut entendre toutes les structures, c'est-à-dire y compris politiques, sociales, juridiques, économiques, religieuses, mentales. Hein. Donc c'est un bouleversement et ça agit comme révélateur et ça suscite véritablement des grandes tensions dans la société. Alors d'autre part, ce qui me semble frappant dans ce texte, c'est que le mot civilisé est employé à plusieurs reprises. Et donc il me semble qu'il faut l'entendre à la fois à l'échelle collective et nationale. On renvoie, donc on oppose les pays civilisés comme le nôtre, l'Europe, enfin la France, l'Europe, les pays des Lumières, les pays sachants, savants, aux pays barbares, qui sont renvoyés à leur barbarie hygiénique, à la pauvreté, à la populace, et où les émeutes ont pris le dessus. Et puis, il y a aussi... une civilisation qui est opposée à une barbarie sociale, en fait, une barbarie à l'intérieur de notre société. Et ça, c'est celle des pauvres.
Voilà.
Et des pauvres qui se rebellent, qui finalement ont des réactions instinctives et émotionnelles.
On peut expliquer, Anne Rasmussen, la raison pour laquelle les chiffonniers se rebellent à ce moment, une semaine tout juste après l'arrivée du choléra dans Paris, c'est que finalement, on les prive de leur gagne-pain, d'une certaine façon.
Oui, alors ce sont de vraies émeutes. Hein. Ouais. On voit qu'il y a une représentation critique de cet article hein, qui met à distance. On peut lire le texte hein, dans ces deux dimensions à rebours. Mais il y a eu en effet des émeutes en France, comme dans tous les pays européens, d'autant plus fortes dans les pays en Russie, par exemple. Hein, ça a été de très graves émeutes, mais il y en a eu aussi beaucoup en Grande-Bretagne. Donc il y a en effet des émeutes. Et là, on met en scène les chiffonniers, qui sont en effet une population, alors, comme vous le disiez, qui sont privés de leur gagne-pain. Ce sont des gens qui vivent dans des conditions assez misérables et que l'on interdit pendant l'épidémie de faire circuler leurs tombereaux parce que ce sont des facteurs d'insalubrité. Ils ramassent les tissus souillés et puis ils sont privés de leur gagne-pain parce que...
Les sociétés privées de nettoyage, finalement, sont mandatées pour nettoyer les rues de Paris.
C'est ça. Il y a une politique de salubrité publique qui prend les choses en main pour assainir la ville. Et donc, les chiffonniers sont supprimés de la scène. Et ils sont toujours stigmatisés comme étant des fauteurs d'épidémie. Et ça, tout au long du siècle. Hein. Ce sont vraiment des personnages un peu iconiques du développement et réputés être des semeurs de peste.
Là, on parle de l'autorité publique, des consignes qui sont données finalement à la population parisienne, mais finalement toutes les populations de France, qu'elles soient urbaines ou plus rurales. du côté de la science, finalement, quelles sont les réponses à apporter? Parce que là, il y a pas mal d'atermoiements, pas mal de doutes, pas mal d'hésitations, pas mal d'errances aussi sur les réponses à apporter. Dans cette même gazette, ce qui est intéressant, c'est que je me suis rendu compte que dans les dernières pages, il y avait plein de publicités pour des faux remèdes, voilà, des pharmacies parisiennes qui proposent des eaux de Cologne pour traiter du choléra. Alors on se rend compte que là, il n'y avait pas de réponse scientifique réelle qui était apportée. Comment on va progressivement, dans le cours du 19e siècle, se sortir de ces épidémies de choléra et y apporter des réponses scientifiques qui vont permettre justement d'apporter des réponses politiques plus précises et plus fines?
Alors, il n'est pas sûr que les réponses scientifiques ou médicales soient ceux-là qui mettent un terme aux épidémies. Les épidémies, elles trouvent toujours leur fin presque d'elles-mêmes, en fait. Hein. Les parenthèses se referment, heureusement. Mais il est vrai que des réponses sont fournies sur le plan médical. Donc, il y a des théories qui s'affrontent, là aussi. La théorie de Brousset, par exemple, théorie physiologique. Donc, lui pense que toute pathologie est liée à une inflammation. Donc, il va lutter, il va proposer des moyens de lutter contre l'inflammation, notamment par des saignées, des sangsues, de la glace.
Les saignées, c'est peu recommandé quand on a le choléra, puisque c'est une maladie qui déshydrate beaucoup déjà, donc c'est pas forcément recommandé, oui.
Voilà, alors il y a des théories opposées, comme celle de Magendie, qui pense qu'il faut lutter contre l'affaiblissement par des excitants, au contraire, ou des théories qui pense à la contagion, comme Bretonneau, et qui veut isoler les malades, les hospitaliser. Et puis, il y a toute une série de remèdes de toutes sortes, plus ou moins, comme vous le disiez, charlatanesques. Mais il faut pas non plus les sous-estimer. C'est-à-dire que dans un contexte d'impuissance thérapeutique, tout est bon, et il y a une demande sociale pour cela. Il y a une demande, il y a un public, il y a un marché, et finalement on peut s'y engouffrer avec plus ou moins de succès, plutôt moins en l'occurrence.
Alors on approche déjà, Anne Rasmussen, de la fin de l'émission, le temps passe beaucoup trop vite à vous écouter. Alors si on fait un petit peu des bonds dans le temps, donc on a parlé de ces théories, miasme, contagion, on rappelle qu'à l'époque de cette deuxième épidémie de choléra, on ne connaissait pas les microbes, il y avait une théorie qui allait arriver, la théorie des germes, développé par notamment Pasteur et en Allemagne par Robert Koch, qui lui, à la fin du 19e siècle, va découvrir le bacille du choléra. Si on doit faire un résumé de ce 19e siècle autour du choléra et de ce qu'a incarné cette maladie en matière d'évolution sanitaire et scientifique, comment on pourrait condenser tout ça en une minute? Je suis désolé.
Alors c'est en effet sans doute les étapes de constitution de savoir épidémiologique qui prennent vraiment forme au milieu du 19e siècle, avec des méthodes d'enquête, d'enquête sociale, d'enquête statistique, d'essayer d'objectiver les trajectoires de la maladie. Il y a quelques moments qui sont constitutifs de ces savoirs, notamment le passage avec John Snow, qui est devenu un peu mythique en Grande-Bretagne, à Londres, qui met en valeur finalement la dimension, la causalité hydrique de la maladie, en superposant des cartes du réseau des eaux d'un quartier londonien avec la carte des cas du choléra en 1854, des habitations où les gens sont atteints par le choléra, et met en valeur finalement la responsabilité d'une pompe en particulier. Et vous l'avez cité, évidemment, il y a le moment très fondateur ultérieur, 1883, de la théorie des germes. 83, c'est le moment où Robert Koch, le bactériologiste, identifie le bacille virgule, qui le vibrion du choléra, qui va pouvoir donner lieu à des recherches prophylactiques, à la mise au point de vaccins plus ou moins efficaces. Mais peut-être faut-il souligner, non pas pour diminuer les mérites de la science, mais pour souligner que tout cela ne se fait sans contradiction, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de rupture radicale. Et cela se fait sans contradiction avec la poursuite de thèses environnementales, finalement, qui font que, eh bien, pour lutter contre le choléra, sans doute, le meilleur moyen, c'est la salubrité publique, c'est l'assainissement qui se poursuit alors même que la théorie des germes est connue.
Ce qui est intéressant aussi dans cette histoire du choléra, c'est que ça rassemble des disciplines apparemment aussi éloignées que la médecine et l'urbanisme, puisque par exemple, rien que pour prendre l'exemple de Paris, toute la révolution urbanistique autour de Haussmann va avoir aussi un ancrage dans ces épidémies-là et dans leur circulation. On rappelle aussi, Anne Rasmussen, que le choléra est encore une maladie du présent. On l'a vu il y a quelques mois encore revenir à Mayotte, avant même la survenue du cyclone Chido. Donc voilà, c'est une histoire qui s'écrit encore au présent, avec des réponses qu'on apporte encore de façon adaptée ou pas du point de vue des politiques de santé publique. Merci beaucoup à vous, Anne Rasmussen, d'être venue en tout cas nous éclairer sur les enjeux de ce choléra au XIXe siècle. On peut vous lire dans le livre « Face aux épidémies de la peste noire à nos jours », coédité par Michel Lafon et les Archives nationales. Merci encore.
Doctor, please, can you help me? He said, well, let me see. And then he just thought about it, thought about it, thought about it. Yeah, I do think I can help you. All you need is take one of these, one of these, one of these, and then call me in 2 weeks if you don't feel the same. Cause everywhere's a nowhere place, and everyone's a nothing disease. Sitting in a somewhere space, thinking they're the one, thinking that they are the bees. I open the instructions and I start to read. What are the side effects? What can happen to me?
Nothing disease par Siskiyou. Siskiyou, oui, bien sûr, c'est ça, dans Science Chrono sur France Culture. Après avoir parlé de la France au temps du choléra, on reste en France, mais on remonte 10 siècles avant cette épidémie et on rejoint une petite île charmante à l'époque carolingienne, l'île de Ré.
Science Chrono, l'entretien archéologique. Antoine Beauchamp.
Les archéologues de l'INRAP viennent tout juste de nous livrer une découverte rare sur l'île de Ré, des sépultures datant de l'époque carolingienne, présentant des ossements humains accompagnés d'objets. Si on ajoute à cela le fait que ces peignes ou ces éléments de parure nous renvoient à la culture matérielle des peuples nordiques, la machine à interprétation s'emballe et certains se prennent déjà à imaginer des vikings sur l'île de Ré. Mais gardons-nous bien de tirer ce genre de conclusion tant que les analyses auxquelles doivent être soumises ces découvertes n'auront pas donné de résultats plus précis. Et pour nous aider à patienter et à rester prudents dans ce travail d'interprétation, nous avons le plaisir d'être en ligne aujourd'hui avec Annie Boll. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes archéologue à l'Institut National de Recherche Archéologique Préventive, l'INRAP, et vous êtes la responsable scientifique de ces fouilles réalisées dans la commune de La Flotte, sur l'île de Ré. Avec nous également en studio, Lucie Malbos, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historienne, maîtresse de conférences en histoire médiévale à l'université de Poitiers et autrice du livre « Les peuples du Nord » de Frodi, je le dis bien, je ne sais pas comment on le dit.
Frozy.
De Frozy, ah ben voilà, c'est mieux. De Frozy à Harald l'Impitoyable, paru dans la collection Mondes Anciens des éditions Belin. Merci beaucoup à toutes les deux de venir aujourd'hui nous parler de cette très belle découverte qui, comme beaucoup de découvertes archéologiques, nous pose des questions et va nécessiter un travail très long, très patient en tout cas, d'analyse scientifique pour obtenir des réponses. Alors Annie Boll, on va peut-être remonter à l'origine de ces fouilles que vous avez accompagnées sur l'île de Ré, notamment sur ce site de La Flotte. On peut peut-être décrire la commune de La Flotte et déjà dire que vous avez eu pas mal de chance d'avoir 900 mètres carrés à disposition de libre pour faire ces fouilles.
Alors absolument, c'est pas inespéré, mais c'est vrai qu'il reste assez peu de terrain sur lesquels on peut travailler. Et parce que l'île de Ré s'est beaucoup construite, mais la commune de La Flotte est située sur la côte nord de l'île de Ré, ce qui est la côte qui permet le plus facilement aux bateaux de venir s'abriter. Donc, a priori, des échanges anciens, prouvés par de la céramique gauloise et grecque qui a été retrouvée jusqu'à présent. Et puis, les données archéologiques sur l'île concernent beaucoup l'Antiquité. Donc, on a très peu de données sur le Haut Moyen-Âge Et jusqu'à présent, les historiens supposent que l'île est généralement assez peu occupée. En fait, c'est surtout parce qu'on a assez peu de textes, parce que pas de grande abbaye carolingienne à aller sur l'île, et pour l'instant, on n'avait pas de données archéologiques sur cette période.
Alors Hannibal, je crois que vous avez un double appel. Non, ça c'est une blague, mais on a entendu un bip bip, alors on va voir si ça reprend. Ce qui est intéressant dans ce que dit Hannibal Lucie Malbos, c'est justement qu'on a peu finalement de sources écrites qui nous parlent de l'île de Ré et de sa potentielle fréquentation dans cette période du Haut Moyen-Âge.
Oui, c'est ce qui fait tout l'intérêt de cette découverte, hein, c'est qu'on est sur un quasi-vide à la fois archéologique et textuel. La côte atlantique, hein, de façon générale, est assez peu connue pour cette période. Il y a beaucoup d'îles, hein, il y a l'île de Ré, il y a l'île d'Oléron.
Noirmoutier.
Et il y a Noirmoutier. Alors effectivement, l'une de celles qui est la mieux connue, c'est Noirmoutier. Pour la raison que Hannibal a évoquée il y a un instant, il y a une très grosse abbaye de l'époque carolingienne sur l'île de Noirmoutier. Et donc il y a des textes autour de cette abbaye. On n'a pas du tout l'équivalent pour l'île de Ré ou même pour l'île d'Oléron, qui est pourtant beaucoup plus grosse hein, que l'île de Ré.
Alors, est-ce qu'on est à nouveau avec Hannibal ? Hannibal, je vais vous poser une petite question, là, pour le coup, en termes de travail de diagnostic et de travail préliminaire, finalement, à cette fouille qui a eu lieu en décembre 2024. Quel premier sondage vous a mis sur la piste de cette belle découverte dont on va parler dans un instant ?
Alors, déjà, on est dans un secteur archéologique sensible, parce qu'on est juste à côté d'une villa gallo-romaine qui a été fouillée dans les années 80-90, et donc on pouvait s'attendre à retrouver des vestiges. C'est la raison pour laquelle le service de l'archéologie a prescrit un diagnostic avant la construction d'une maison. Et les résultats de ce diagnostic nous mettent en présence de vestiges médiévaux. Ils ont réalisé une datation radiocarbone qui nous donne une date sur une sépulture comprise entre la fin du 8e siècle et le 3e quart du 10e siècle.
Donc là, on est en pleine période du Haut Moyen-Âge, en pleine période carolingienne. Mais ce qu'il faut dire aussi, Hannibal, pour être tout à fait complet, c'est que ce site a été occupé sur une période de temps plus longue.
Oui. Nous, on est les vestiges qu'on a sur la fouille sont datés entre le 8e et le 15e siècle.
Ces 50 sépultures, du coup, on peut peut-être les décrire, alors pas dans le détail, mais décrire peut-être l'endroit où elles se situent et autour duquel elles gravitent.
Alors déjà, elle gravite autour d'un bâtiment qui est orienté est-ouest et pour lequel on suppose que ça peut être la chapelle d'un prieuré qui est déjà mentionné au XIIe siècle, mais dont on ne sait absolument pas à quel moment il est fondé.
Alors Hannibal, dans ces 50 sépultures qui ont été retrouvées à l'intérieur de cette structure et à l'extérieur de ses limites, comment ça se fait qu'on en retienne 5 ? Pourquoi sur cette cinquantaine, 5 ont vraiment retenu votre attention tout particulièrement ?
Alors, parmi les sépultures qui sont datées 8e, 10e siècle pour faire large, c'est-à-dire période carolingienne, on a 5 tombes qui livrent du mobilier. Et à l'époque carolingienne et dans nos régions, normalement, il n'y a pas d'objets dans les tombes. Donc déjà, ça c'est carrément exceptionnel. Et puis ensuite, ce sont des objets liés à la parure, aux accessoires de vestimentaire ou à des objets personnels.
Si on rentre dans le détail de ces objets qu'on a découverts dans ces 5 tombes, alors 5 individus, peut-être qu'on peut les présenter, ces individus, qu'est-ce qu'on en sait déjà ? C'était des hommes, des femmes plutôt ?
Alors, pour l'instant, il y a un individu qui n'est pas déterminé dans son sexe, peut-être plutôt un homme, mais on ne sait pas. Et dans les 4 autres, c'est au moins un homme et 3 femmes. Et 3 femmes qui sont plutôt jeunes.
3 femmes et un homme et un individu dont le sexe reste à déterminer, qui sont donc, vous le disiez, Hannibal, accompagnés d'objets, fait rarissime, on le rappelle, à cette époque carolingienne dans les sépultures. Alors décrivons ces objets-là. Avant même de parler de toute interprétation, on va les décrire et dire un peu ces objets qui accompagnaient ces morts.
Mais d'abord, ce qu'il faut dire, c'est que non seulement c'est exceptionnel d'avoir des objets à cette période dans les tombes, mais en plus, ce qui est exceptionnel, c'est que ce sont des objets qui, a priori, vont nous emmener vers des mondes nordiques.
Alors là, on y va hein, déjà dans l'interprétation. Si je fais la liste un petit peu des courses, donc on a 2 peignes, probablement fabriqués en bois de cervidés ou en os tout du moins. L'un qu'on a retrouvé au niveau de la hanche de l'homme, l'autre peut-être, l'autre sur la poitrine d'une femme. Leur confection, Hannibal, elle est a priori pas très typique, assez étonnante. Alors quels sont les éléments justement qui ont suscité la surprise ?
Alors déjà, ce type de peigne n'est pas connu dans le, enfin n'est pas produit dans le monde des Francs, mais nous renvoie plutôt vers le 9e siècle chez les Frisons ou d'une manière plus générale autour de la mer du Nord.
Les Frisons, donc, les Frisons, c'est le nord de l'Allemagne, oui.
Alors les Frisons, c'est le nord de l'Allemagne ou les Pays-Bas actuels.
Mmh. Alors on a ces peignes, on a aussi, je crois, Hannibal, quelques perles qui là aussi nous renvoient au peuple nordique.
Exactement. Dans une des tombes, en fait, il y a deux tombes dans lesquelles il y a des peignes. Un homme donc qui a ce peigne probablement accroché à sa ceinture, enfin en tous les cas qu'on retrouve sous son fémur, et puis une femme qui a un peigne qui est posé sur sa poitrine et avec à côté d'elle un certain nombre d'objets, des objets en métal qui sont pas encore identifiés, et puis des perles en ambre, en os et en verre. Mmh. Et pour les perles en verre, on a des exemplaires assez proches qui sont connus au Danemark ou aux Pays-Bas.
Là, dans ce que vous dites, Hannibal, il y a quelque chose qui m'interpelle déjà, c'est une question que je vais vous poser aussi à vous, Lucie Malbos, c'est que le Nord, c'est vaste finalement à cette époque-là. Quand on parle des peuples nordiques, on s'imagine tout de suite la Scandinavie, mais ça n'est pas que ça, Lucie Malbos.
Oui, effectivement, là, on reste très prudent, vous l'avez dit en ouverture, on est sur un arc très très large, on est sur ce que j'appelle habituellement le bassin des mers nordiques, qui en gros court de la mer d'Irlande à l'ouest jusqu'à la mer Baltique à l'est. Là, a priori, on est plutôt sur un espace un peu plus resserré entre mer d'Irlande et mer du Nord, en passant par la Manche.
Alors, on parlait tout à l'heure de l'époque carolingienne. L'époque carolingienne, c'est une période qu'on étudie à l'école, au collège. Et il faut rappeler quand même deux, trois éléments sur cette période, finalement, qui est marquée par l'Empire carolingien, par le règne de Charlemagne, de Louis le Pieux, son fils, et puis par la dissolution progressive de cet empire dans ces mauvais héritiers que sont les enfants de Louis le Pieux. Si on doit un petit peu situer les éléments qui se modifie finalement à cette époque-là carolingienne, principaux, quels seraient-ils ?
Oui, effectivement, vous avez bien rappelé les grandes lignes politiques. Hannibal a expliqué tout à l'heure qu'on était encore sur une fourchette chronologique très large. Oui. Donc effectivement, on n'est pas du tout en mesure pour l'instant de savoir si on est sous le règne de Charlemagne, donc à la fin du 8e, début du 9e siècle, si on est plutôt au moment de l'éclatement de l'Empire carolingien ou après. Et ça, ça va avoir son importance, hein, pour l'interprétation. Mais ce qui est certain, c'est qu'on est dans une période qui, d'un point de vue également économique et en termes d'échange et de circulation, est une période très importante. C'est quelque chose qu'on a moins en tête. Hein. Au-delà de la construction politique, il y a aussi quelque chose qui s'opère avant même en fait l'époque de Charlemagne, dès le 7e siècle. On voit progressivement les échanges qui étaient très dynamiques en Méditerranée à la fin de l'Antiquité, au début du Moyen-Âge, perdre un petit peu de ce dynamisme. Et inversement, il y a un autre espace qui est justement cet espace autour des mers nordiques qui devient de plus en plus dynamique, avec des échanges qui s'intensifient entre les deux rives de la Manche, donc le nord du Royaume des Francs, le sud de l'Angleterre, mais également plus à l'est avec l'espace scandinave ou sur la rive sud, cet espace frison.
Si on fait un focus sur ce monde nordique, justement, comment expliquer le fait qu'il y ait un dynamisme qui soit aussi important à ce moment-là, qui fait qu'il y a une nouvelle polarité finalement qui se crée au nord ?
Oui, alors bon, c'est compliqué, on va essayer d'y aller à gros traits, mais en fait c'est une conjonction de facteurs, il n'y a pas un facteur. Pendant très longtemps, on a pointé l'arrivée de l'islam en Méditerranée au 7e siècle, ça contribue probablement à désorganiser ou à réorganiser les réseaux d'échange en Méditerranée, mais ça ne suffit pas à expliquer que tout bascule vers les mers nordiques. Il y a un facteur politique qui joue, c'est l'arrivée justement des Pipinides, les ancêtres des Carolingiens, qui sont originaires de cette région germanique, hein, en gros la région autour d'Aix-la-Chapelle, et donc ils tournent naturellement plutôt leur regard vers le nord. Et puis il y a également tout un ensemble de facteurs économiques. À partir du 7e siècle, on commence à équiper les bateaux de voiles dans les mers nordiques. Ça peut paraître surprenant, mais jusqu'à présent, la voile était connue en Méditerranée, mais pas en Manche ou en mer du Nord. Et donc, à partir du 7e, 8e siècle, elle commence à se développer. Ça a des incidences importantes, hein, en termes de circulation. C'est aussi une période durant laquelle à peu près tous les ensembles culturels qui se trouvent sur les rives des mers nordiques, que ce soit le nord du, enfin que ce soit le royaume des Francs, le sud de l'Angleterre ou même la Scandinavie, décident d'adopter l'argent comme moyen d'échange. Donc là aussi, ça facilite les échanges. Et donc c'est finalement cet ensemble de facteurs qui explique que on voit des échanges s'intensifier, se multiplier entre les différentes rives de ces mers nordiques, rive nord, rive sud.
Les échanges parfois sont un peu brutaux aussi. Il y a bien sûr cette période des fameux Red Vikings. Alors on n'emploie pas du tout à cette époque-là dans les sources écrites le terme de Viking, qui est un terme qui apparaîtra bien plus tardivement à partir du XIIIe siècle et puis qui sera surtout complètement boosté par les romantiques au XIXe siècle. Mais ça, ce sera l'affaire peut-être d'une toute autre émission. En tout cas, revenons à ces échanges et à ces interactions un peu raides. C'est le cas de le dire. Ces radias, on peut en parler.
Oui, effectivement. Alors, on a évoqué le contexte politique, on a évoqué le contexte économique, mais il y a aussi ce contexte violent que vous évoquez, qui se situait également à cette même époque, hein, puisque le règne de Charlemagne, c'est aussi le règne durant lequel on a les premières mentions écrites de ces fameux Red Vikings. La première mention écrite qu'on ait pour le monde franc, c'est sous la plume d'un des conseillers de Charlemagne, qui évoque des attaques sur les îles de l'océan, du côté de l'Aquitaine. Donc ça reste assez flou, hein, c'est précis tout en étant flou. Peut-être l'île de Ré, peut-être l'île d'Oléron, l'île Dieu. Il emploie un pluriel en plus. C'est le début dans la documentation écrite des raids, qui ensuite ne vont avoir de cesse de s'intensifier, surtout à partir de l'éclatement de l'Empire carolingien, à partir des années 840. Et là, on en revient à ce que je disais tout à l'heure. Selon qu'on se situe avant, plutôt dans la période de début des raids, ou après, au moment où il s'intensifie, ça va avoir son importance, même si une fois encore, peut-être qu'on est dans un contexte tout autre. On est peut-être dans un contexte simplement d'échange économique et culturel, et pas nécessairement de raid viking.
On évoquait tout à l'heure avec Hannibal le fait que ce soit exceptionnel finalement de découvrir des tombes carolingiennes avec des objets. Est-ce que si on se situe maintenant non plus dans la trace écrite, mais dans la trace matérielle de présence nordique en France, est-ce qu'on a des exemples en France de vestiges archéologiques qui témoignent de la présence de personnes venant des peuples nordiques?
Alors, de la présence de personnes venues du Nord ou de la présence, parce que là, pour l'instant, à ce stade-là, on ne peut pas encore trancher, de la présence en tout cas d'échanges avec ces peuples du Nord, c'est là que ça devient très intéressant. En fait, on n'a pas grand-chose. On a des petits éléments, mais en réalité, l'essentiel de nos connaissances archéologiques se situe plutôt sur la façade Nord, autour d'un site qui a aujourd'hui disparu, qui est le grand port marchand de l'époque carolingienne de Kentovic. On est du côté de Boulogne, hein, en gros, pour situer ça.
Boulogne-sur-Mer.
Boulogne-sur-Mer. Et donc là, effectivement, on a des traces d'échanges, on va retrouver des peignes, on va retrouver des objets qu'on peut retrouver ici sur l'île de Ré, mais on est vraiment dans un contexte très particulier. C'est un grand port marchand, donc sa raison d'être, ce sont justement les échanges, et notamment les échanges à travers la Manche et la mer du Nord. En dehors de ce port marchand, on a quelques autres traces. On a une tombe à bateau sur l'île de Groix, donc au large des côtes bretonnes, hein, sur lesquelles il y a effectivement, pour lesquelles il y a également de très fortes suspicions, enfin plus que des suspicions, mais des traces d'échanges avec ces mers nordiques. Mais si on redescend un petit peu plus vers le sud et que justement on descend vers l'île de Noirmoutier, l'île d'Oléron, l'île de Ré, on entre dans ce que j'appelle souvent un vide archéologique. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a rien, mais on n'a rien découvert jusqu'à présent. Enfin, on n'avait rien découvert jusqu'à décembre 2024. Et c'est ce qui fait tout l'intérêt de cette découverte, c'est que ça n'est pas très surprenant. Tout ce que je viens de vous expliquer auparavant tend à faire penser qu'il y a des échanges également intégrant la côte atlantique. Mais jusqu'à présent, on n'avait pas vraiment de traces matérielles de ces échanges.
Hannibal, vous souhaitiez compléter, je crois, le propos de Lucie Malbos.
Oui, c'est surtout pour préciser qu'en fait, nos collègues archéologues qui travaillent en Normandie, dans une zone où normalement les Vikings se sont établis, on trouve finalement très peu de traces matérielles et qu'on suppose qu'il y a une adoption très rapide des objets locaux et notamment de la céramique, enfin bon, tout ce qu'on peut imaginer comme objets sur lesquels pour lequel ils n'amènent pas leurs propres objets, mais ils s'adaptent à ce qui va être sur place.
Ça, Lucie Malbos, c'est fréquent finalement que les peuples nordiques s'adaptent, s'accoutument, s'assimilent rapidement avec les coutumes locales et les cultures matérielles locales.
Alors c'est assez surprenant parce qu'en réalité, on va avoir une très grande diversité de situations selon les endroits. D'un point de vue matériel, on va retrouver beaucoup plus de traces en Angleterre, par exemple. Mais c'est vrai que sur l'espace français, enfin sur la France actuelle, on a une situation qui est très différente et Annie Boll l'a bien rappelé, l'exemple qu'on cite souvent c'est celui de la Normandie parce qu'effectivement là on le sait par les textes, c'est bien documenté, il y a des hommes du Nord qui obtiennent l'autorisation du roi carolingien de s'installer durablement, il y a un traité qui est conclu et très rapidement ils disparaissent du paysage dans le sens où ils ne laissent pas effectivement de traces matérielles, on n'a pas de sépulture équivalente à celle de l'île de Ré pour le monde normand, très vite ils se mettent à se faire inhumer à la mode carolingienne, ils se mettent à parler à la mode carolingienne, à adopter des prénoms carolingiens, et donc ils se fondent dans le décor en quelque sorte. Et donc c'est aussi tout l'intérêt de cette découverte sur l'île de Ré, c'est que là on a des individus qui... Alors, on peut être adopté certains éléments de la culture carolingienne. Il y a notamment des petites attaches métalliques hein, qu'on n'a pas évoquées tout à l'heure, mais qui sont pour le coup assez courantes dans nos régions. Et en même temps, ils ont gardé quand même certains éléments de leur culture. Et donc, il y a visiblement un mélange des deux. Alors, il faut garder aussi à l'esprit qu'il y a beaucoup de choses qui ont disparu. Les textiles ont disparu. On ne sait pas comment ils étaient habillés exactement. Est-ce qu'ils étaient habillés à la mode carolingienne, à la mode du Nord, un mélange des deux? Mais voilà, il y a ce mélange dans cette tombe et surtout cette présence des objets qu'on retrouve très très peu ailleurs.
Alors Annie Boll, on en vient là, par les propos de Lucie Malbos, à ce travail d'interprétation qui va être maintenant celui des archéologues et des scientifiques qui vont travailler sur ces vestiges retrouvés sur l'île de Ré. Ça va commencer par quel type d'analyse, quelles questions on va poser à ces vestiges qu'on a retrouvés sur le site de la flotte à l'île de Ré?
Alors, on n'a pas eu le temps de tout lister ce qui était trouvé parce que j'aurais pu parler de la ceinture qui est vraiment un des éléments vraiment spectaculaires avec des entrelacs, enfin voilà, possiblement un plaquage d'argent, enfin voilà, il y a vraiment des objets extraordinaires et dont on n'a pas trop eu le temps de parler, puis c'est un peu court, mais effectivement à partir de maintenant, on va pouvoir parler des analyses et savoir si sur le mobilier on peut faire des analyses sur le verre, des analyses physico-chimiques qui vont nous permettre de savoir un petit peu à partir des différents matériaux qui sont composés, peut-être les provenances des matériaux. Et donc là, on a déjà des pistes par rapport aux analyses typochronologiques, mais on va pouvoir affiner tout ça. Et puis ensuite, pour les peignes, on va évidemment aussi pouvoir avoir des analyses paléogénétiques si l'ADN parle, et ce qui semble être assez le cas, parce qu'il semble assez bien conservé, au moins pour les peignes. Donc, on va pouvoir voir un petit peu d'où viennent, quelles espèces animales ont fourni le matériau. Et puis, évidemment, la question, c'est qui sont ces personnes? Donc, pour l'instant, on a deux hypothèses. Une population locale qui choisit un mode d'inhumation particulier, avec des objets exotiques, et puis l'autre possibilité, c'est des gens venus d'ailleurs. Et donc là, évidemment, les analyses sont déterminantes, parce que dans un premier temps, c'est des analyses au radiocarbone qui vont nous permettre de distinguer les sépultures d'époque carolingienne, et puis ensuite des analyses isotopiques sur les individus, qui vont nous renseigner sur le régime alimentaire et l'origine géographique, et puis si l'ADN est conservé, des analyses génomiques qui vont nous déterminer le sexe, les relations de parenté et, dans l'absolu, l'origine génétique. Là, c'est vraiment ce qu'on pourrait espérer de mieux.
Lucie Malbos, donc cette origine géographique, il ne faut pas qu'on s'y trompe non plus. Quand on parle de population viking, notamment les vikings, c'était une profession, ça n'avait rien à voir avec une forme d'ethnie ou quoi que ce soit. Donc on peut aussi être déçu avec des bons résultats génétiques.
Oui, effectivement, la génétique en réalité ne nous apprendra peut-être rien. Peut-être que oui, mais peut-être que non. Hein. Toutes les clés ne sont pas forcément dans les études les techniques, récentes. Ce que les analyses vont peut-être, génétiques vont peut-être nous révéler, c'est qu'on a affaire à des gens avec des origines très mélangées. Et en réalité, ça ne serait pas surprenant et les objets laissent déjà peut-être entendre ça, hein, puisque on l'a dit très très vite, pour l'instant, les objets n'ont pas été étudiés, c'est juste des parallèles qui ont été faits, on a montré ça à des spécialistes à droite et à gauche qui ont dit « Ah, ça me fait penser à un peigne originaire de Frise, une perle originaire d'Irlande ou une perle originaire du Danemark, ou une ceinture qui évoque des motifs anglo-saxons. » Dans tous les cas, ce qui est intéressant, c'est que pour l'instant, il n'y a pas une seule région qui est pointée du doigt, vraiment un ensemble très très large. Et donc peut-être que la génétique va également aller dans ce sens-là, ou pas. Mais voilà, il faut s'attendre à ce que ça soit peut-être compliqué aussi à interpréter, même une fois qu'on aura les analyses génétiques.
Alors on parlait tout à l'heure, Hannibal évoquait les deux hypothèses pour dire qui sont ces personnes-là. Est-ce que ce sont des personnes étrangères installées ici ou bien des élites locales qui auraient adopté finalement certains codes? Vous, je ne vais pas vous demander de trancher l'affaire tout de suite, puisque bien sûr, là, il y a tous ces travaux scientifiques qui viennent, mais vers quelle hypothèse pencherait plutôt votre cœur et pas votre cœur, votre raison aussi?
Alors, ce qui est certain, c'est que, enfin, on est effectivement face à un groupe, hein, parce qu'on ne peut pas vraiment parler de population avec 5 individus, même s'ils s'insèrent dans un ensemble plus vaste, il y a probablement d'autres tombes d'époque carolingienne à côté, mais qui pour l'instant ont moins attiré l'attention, parce qu'elles sont beaucoup plus classiques, mais il va falloir étudier l'ensemble, tout cet ensemble d'un bloc. Ce qui est certain, c'est que ce petit groupe donc, se distingue par des coutumes qui sont assez peu habituelles dans le monde carolingien. La deuxième hypothèse, personnellement, je suis moyennement convaincue dans le sens où je vois assez mal des élites locales se faire enterrer à la mode entre guillemets barbare, qui est en fait le mode de représentation qu'on a de ces populations venues du nord, hein, à l'époque carolingienne, dans le monde carolingien. Après, ça ne veut pas forcément dire qu'on a des gens qui viennent de l'endroit où le peigne a été produit, où la perle a été produite. Une fois encore, on a des gens qui ont pu voyager, qui ont pu glaner différents objets, différentes pratiques.
Des marchands, par exemple.
Oui, voilà, ouais. Différentes croyances aussi, hein, au fil de leur voyage. Et à l'arrivée, un peu comme la génétique, on a quelque chose de très très mélangé. Donc des gens qui ne sont peut-être pas originaires effectivement du monde carolingien, mais qu'on va avoir du mal peut-être à situer avec précision. Mais c'est ce qui rend aussi cette découverte si, si fascinante.
Alors Hannibal, donnez-nous un petit calendrier, un petit agenda en tout cas de vos travaux à venir concernant ces vestiges retrouvés sur l'île de Ré. Quand est-ce qu'on pourra vous réinviter?
Alors là, vous allez être super déçus parce qu'il va falloir attendre longtemps. Et je pense qu'il va falloir se mettre un calendrier de 2 ans parce que les analyses, ça prend du temps. Et puis surtout que nous, il faut bien se rendre compte qu'on est en sortie de fouille et que pour l'instant, on donne des éléments. Mais évidemment, il faut qu'on les analyse tous. Et on va peut-être se dire à un moment donné, non, là, on s'est trompé. Et donc, il faut... en fait, les données de terrain, c'est des faits qu'on enregistre. Et l'archéologie, c'est du temps long. Donc voilà, évidemment, on n'est pas quand on communique immédiatement à la sortie d'une fouille, on n'est pas dans ce temps long. Mais l'archéologie, c'est ça. C'est ça qu'il faut se rappeler.
Et vous allez commencer par quels éléments en particulier? Alors bien sûr, il y a ces éléments matériels, mais si on prend par exemple ces ossements, quel individu vous allez interroger en premier et quel choix, comment va s'opérer ce choix-là?
Eh bien, tous d'abord au départ, parce que déjà on va tous les analyser, et puis ensuite on va, avant de prendre des mesures, de se dire celui-là on va l'envoyer, il va falloir se dire est-ce que celui-là a sa tête? Parce que c'est pas si évident, hein. Ça paraît très simple comme ça quand on résume, mais tous n'ont pas leur tête. Et pour des analyses isotopiques ou paléogénétiques, l'ADN il est souvent concerné dans un tout petit os qui s'appelle le pétreux, qui est dans l'oreille. Et donc quand on n'a pas la tête, on n'a ni les dents ni le pétreux. Et donc voilà, il faut se poser plein de questions avant de savoir déjà sur lesquels on va poser les analyses. Et donc, il nous faut du temps. L'archéologie, c'est du temps long.
Alors, on l'a dit, on le répète, on ne va pas tomber dans cet excès d'interprétation. On ne va pas imaginer tout de suite des Vikings en train de manger une glace sur l'île de Ré, Lucie Malbos, mais quand même, on peut rêver un peu.
On peut rêver, mais là aussi, c'est un point de vue personnel. Moi, je trouve que c'est encore plus fascinant si ce ne sont pas des Vikings. On n'a pas trouvé d'épée, on n'a pas trouvé de hache, et c'est très bien qu'on n'en ait pas trouvé. Parce qu'en fait, ça nous montre finalement qu'il y a des circulations très larges, qu'il y a des échanges à cette époque-là, bien au-delà juste de cette image qu'on a du raid, qui est une forme d'échange, hein, violent. Mais on ne peut pas réduire tous les échanges des 8e, 9e, 10e siècle à ces seuls raids vikings. Donc moi, je préférerais que ce ne soit pas des vikings.
Eh ben, on restera sur ce joli mot de la fin. Merci beaucoup à toutes les deux, Hannibal et Lucie Malbos, de nous avoir accompagnés à la rencontre des vikings ou pas sur l'île de Ré. Science Chrono, c'est fini pour aujourd'hui. Un grand merci à toute l'équipe. Merci à Alex Dang aujourd'hui à la technique et à Anna Holweck à la réalisation. Merci à nos partenaires l'INRAP et l'INA. Vous pouvez réécouter cette émission comme toujours sur l'appli Radio France ou bien sur le site franceculture.fr. N'oubliez pas de régler vos montres à l'heure des sciences. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit, pour un nouvel épisode de Science Chrono.